une histoire particulière. Elle a couvert 14 conflits. Cambodge, Liban, Nicaragua, Salvador, Iran, Afghanistan. Et ses photos, publiées par toute la presse internationale, ont fait le tour du monde. Tout au long de sa carrière, elle a refusé le sensationnalisme. L'important dans la guerre, dit-elle, ce ne sont pas les morts, ce sont les survivants. Aujourd'hui, dans une histoire particulière, voici une rencontre avec la femme, la photographe, l'artiste, la correspondante de guerre, une personnalité et un parcours hors norme, celui de Christine Spengler.
Christine Spengler, dans l'ombre de la mort. Un documentaire de Judith Pérignon, réalisé par Gaëlle Gillon. Premier épisode, en guerre.
Et vous, c'est quoi ? Un documentaire radio.
De 5 heures.
Bravo. Et tu en es à combien d'heures déjà, Gaëlle ?
La première fois, nous n'étions pas venus pour parler d'elle. Nous préparions un long documentaire sur la photographe Lee Miller. Nous avions des heures d'enregistrement déjà, mais nous voulions que Christine Spengler nous parle de Lee Miller et de la photographie de guerre.
Je ne sais pas pourquoi elle vient me voir, parce qu'elle a déjà trop. Bon, qu'est-ce que je vous sers ?
Rien.
C'est vrai, ça va ?
Parler.
Bon, allez. Donc, je suis épuisée, tu penses bien, parce que j'arrête pas. Mais je veux dire que ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas indirect.
Nous avons buté sur une femme incontournable, un personnage, une photographe bien décidée à parler de son travail plutôt que de celui d'une autre. Il est partout au mur de son appartement de la rue de Turbigo à Paris.
J'avoue que j'aimerais, que, si tu le permets, je trouverais que Gaëlle déjà aille visiter le couloir.
Ah, bah volontiers.
Avec toi. Mais, tu vois, et avec moi. Bon, attends, il n'y a pas que le couloir. Et le reste, tu le connais.
Mais non, mais il est magnifique, le reste.
Ah ben, alors, on parle de la guerre. Alors ça, c'est Téhéran, 1979. Khomeini vient d'arriver au pouvoir. Les Iraniennes, même les enfants que vous voyez, acceptent de remettre le tchador ancestral pour l'accueillir. Et regarde ce regard frontal qui caractérise mon travail, toujours. Les Arabes disent « les yeux sont les fenêtres de l'âme ». Je suis tout à fait d'accord. Et j'aime qu'on me regarde dans les yeux et je regarde les gens dans les yeux. Et j'adore ce regard frontal qui caractérise tout mon travail et qui prouve que je n'ai jamais volé de photos de ma vie et donc que je n'ai jamais volé leur âme, comme ils disent. Et même dans la photo iconique de la Madone afghane, derrière son grillage de sa burqa, qui tient dans les bras un enfant maquillé dont tu ne sais pas s'il est vivant ou mort, eh bien je dis, je suis sûre qu'elle aussi, malgré le grillage de sa burqa, me regardait droit dans les yeux, tandis que je la photographiais. Bon, ça, c'est de la couleur. Et attends, laisse-moi voir... Bon, là, il y a encore une. Tu vois, elle est beaucoup moins connue, celle-ci. Beaucoup moins, mais c'est pareil. Regarde le regard frontal. Là, on voit, c'est pas moi qui l'ai fait poser. Ça se sent. C'est elle qui sort spontanément tous les portraits de leurs martyrs. Dès qu'elle me voit arriver sur un champ de bataille, toujours habillée en noir, et mon appareil photo, toujours très, très, très discret, jamais je le tiens, tu vois, il est toujours comme ça. Après, elle le voit un peu et c'est là où elles se disent « Ah, celle-ci est comme nous, elle a de la pudeur, elle met le voile, elle met le hijab, mais, ah, elle a un appareil photo, elle est les yeux du monde. » Et grâce à elle, toute la douleur que nous voulons exprimer va pouvoir être reflétée. Et c'est comme ça qu'elle me sort immédiatement... Que ce soit en Algérie, en Iran, en Irak, au Kosovo, elles font toujours la même chose. Toujours, elles me sortent les petits portraits de leurs martyrs qu'elles ont, tu vois, dans leur sac. Et elles me regardent avec un regard suppliant. pour me demander de faire la photo, tu vois. Donc ça, c'est une grande caractéristique de mon travail. Et, ah ben oui, c'est bien que... C'est beaucoup mieux qu'ils voient mes photos d'abord. Ça, les gens disent, c'est un peu comme Lee Miller. Cette photo, je suis sur le trône de Saddam Hussein et Lee Miller dans la baignoire de Hitler. Les gens comparent un peu les deux. Je vois que vous êtes ennuyé parce que je ne vous parle pas beaucoup de Lee Miller. Mais c'est que je ne peux pas. Parce que Lee Miller, soyez honnête, n'a pas passé beaucoup de temps. Vous êtes bien d'accord, on ne peut pas mentir. J'ai toute l'admiration que, contrairement à moi, après avoir été, au contraire, une égérie, une muse, du surréalisme, tout ce qu'on sait, qu'elle ait le courage d'aller à Dachau. Bon. Mais reconnaissons-le, elle fait très peu d'années de photographie de guerre. Hein, on est bien d'accord.
Quelques mois,
donc c'est rien. Elle finit sa vie en taillant des rosiers. Bon.
Elle a couvert 14 conflits. Ce couloir où elle nous entraîne, c'est le tunnel du monde.
Ça, c'est la première photo de ma vie qui est à la base de la découverte de ma vocation. Tchad 1970, lorsque je vois cette photo qui n'est pas encore une photo, avant que je l'aie prise, que je vois cette scène, deux combattants tout bout armés qui se dirigent au front main dans la main, dans un geste d'amitié et de solidarité, c'est là où je dis à mon jeune frère Eric, photographe de mode, il était le photographe d'Harry Merson, l'assistant, il avait des appareils photo, je lui dis, Eric, je t'en supplie, prête-moi un de tes appareils, car moi aussi, je veux témoigner. Nous sommes faits prisonniers au Tchad, 23 jours à Fort Lamy, la capitale, qui aujourd'hui s'appelle N'Djamena, et au retour, nous sommes expulsés du Tchad, et je dis à Eric, j'apprendrai mon métier sur le terrain, car je veux devenir correspondant de guerre pour témoigner des causes justes. C'est comme ça que je découvre ma vocation.
Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'Eric, là-bas, s'était perdu dans les montagnes du Tibesti. Volontairement, elle le savait. Il avait déjà tenté de mourir. Il fut retrouvé sain et sauf. Il avait cherché sa propre mort, là où elle trouva un sens à sa vie.
Polisario, on les appelait les nouveaux Palestiniens du désert, une cause très peu connue. Ils sont hébergés à Tindouf, en Algérie. Et puis ce petit garçon, tout nu sur sa veste trop grande pour lui des cadets d'Algérie, je vois, après l'avoir photographié, qu'il a un petit bandage au pied que je n'avais pas vu avant. Et je lui dis, mais Mohamed, je lui dis en anglais, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et alors il me fait comme ça, il me dit, mais que crois-tu ? J'ai été blessée moi aussi. Donc je découvre ma vocation au Tchad, dans le sable et la rocaille. Je vais en Irlande du Nord, dans la fumée et les pavés. Je retourne dans le sable, dans le Sahara occidental. Après, je pars au Vietnam, où je fais cette photo publiée par le New York Times. Une heure avant que soit signée la paix, cette jeune Vietnamienne, pour la dernière fois de sa vie, cire les bottes des GI qu'elle le est. D'où ce petit sourire, et c'est comme ça que je rentre le soir même à l'agence Associated Press, dirigée par le célèbre Horst Vass. Après, la photo Cambodge, la photo apocalyptique du bombardement de Phnom Penh qui est maintenant sur tous les murs de Paris, hein. Sauf qu'il manque le principal, les cris et les odeurs, les cris des suppliciés et l'odeur de la mort qu'on ne peut pas refléter dans une photo. Est-ce que cette photo ça apporterait quelque chose qu'elle soit en couleur. Je ne crois pas. Donc, j'ai toujours voulu, comme tous les grands maîtres de la photographie ou les grands photographes de l'époque, j'ai toujours voulu fuir le sensationnalisme. Et là, dans cette photo de Phnom Penh, il manque devant, mais j'ai fait exprès de ne pas le prendre, un premier plan ici de corps boursouflé qui brûlait dans la fournaise. Mais moi, j'ai tout de suite analysé la situation, je me suis dit non, ce n'est pas nécessaire. C'est déjà une photo d'apocalypse comme cela. Donc, j'ai préféré la pudeur.
Ce que nous ne savons pas, puisque nous sommes venus parler d'une autre, c'est qu'elle est partie au Cambodge parce qu'Eric est mort. Il a réussi son suicide cette fois. Que cherche-t-elle sur la frontière entre la vie et la mort? Pourquoi son frère l'a-t-il franchi?
Iran, ma deuxième photo la plus célèbre, le cimetière des martyrs de Qom, qui m'a beaucoup inspirée, sans que je m'en rende compte, je m'en suis rendu compte des années après. Le cimetière de Qom, à 90 km de Téhéran, lorsque j'allais rendre visite à Khomeini, enfin plutôt à sa femme, Fatima, qui m'acceptait parce que j'avais de la pudeur et j'étais habillée en noir comme elle. Alors elle disait, faites venir Christine. Dans ce cimetière, très étonnant, sous les dalles, les défunts sont enterrés. Et les femmes ont installé leurs portraits entourés de pétales de rose au-dessus de ces pics. C'est comme une forêt dans laquelle elles se promènent parce que dans ce pays, comme en Afghanistan, il est interdit de sortir, d'aller même au hammam, au bain. La seule promenade autorisée, sans le mari ou le frère, ce sont les cimetières. Moi, quand Paris m'a, je m'envoie au Front Polisario, avant de photographier le petit garçon dans les sables avec son petit uniforme, j'avais quand même photographié le jour de la bataille de Marbès. C'est quand même une photo qui a été une double de match. C'est un combattant du Front Polisario qui lit à haute voix la lettre d'amour que le cuisinier marocain avait écrite sur son journal de bord à sa femme Malika, restée au Maroc, à Marrakech. Et lui écrit, « Malika, mon amour, j'ai peur, nous n'avons plus rien à manger, nous fumons des vieux mégots que nous trouvons dans le désert, l'ennemi est tout près, nous voyons leur pare-brise. » Et c'est eux, ils les ont assaillis au matin, et voilà, il a été tué net dans une tranchée. Bon. Encore une scène du Front Polisario. Cette combattante enceinte et armée va au front dans une bataille. Et le soir, dès qu'elle rentre, la première chose qu'elles font, c'est de troquer leurs habits militaires contre des voiles de couleur pour ne pas faire peur aux enfants. Bon, comme ça, déjà, t'as un peu vu.
Il y a plus de couleurs dans le salon, des photomontages où domine le rouge, avec au centre les gens de sa famille en noir et blanc. C'est mort.
les photomontages couleur, la couleur et le surréalisme vient de ma mère qui est là, Huguette Spengler.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'Huguette?
Bon, lorsque ma mère est morte, dans les journaux, on a dit « mort d'Huguette Spengler, la dernière des surréalistes ». Donc, en effet, ma mère Huguette, qui était d'origine de Hyères-les-Palmiers, mon grand-père était le maire de la ville d'Hyères, donc ma mère a créé devant mon petit frère et moi, depuis qu'on a été tout petit à Marseille, nous avons vu notre mère peindre des colombes immenses sur les murs de la maison, des hippocampes, des papillons. Elle ne connaissait pas Gaudi, parce qu'elle n'avait jamais été en Espagne, mais c'est incroyable. Quand je revois une maison qu'elle a créée à Saint-Paul-de-Vence, je vois qu'elle a fait des trous comme Gaudi, des palmiers qui ressortent. C'est très étonnant. Non, elle était complètement surréaliste. Et donc, Eric et moi, tout petits, Eric était mon jeune frère, 4 ans plus jeune que moi, avons baigné dans le surréalisme. La première époque de ma vie, ça a donc été, comme vous dites très bien, l'influence de ma mère.
Toi, tu es né en 1945, en Alsace. Que tu penses qu'être né dans...
Non. Regarde-moi physiquement. Est-ce que j'ai pas plus l'air plutôt espagnol? Je parle avec les mains, je maquille comme elle. Donc... beaucoup plus mes couleurs de mes photos. Donc moi, je me sens que je dois toute ma culture à l'Espagne, où je suis arrivée à Madrid à l'âge de 7 ans, après le divorce de mes parents. Et évidemment, l'influence ensuite du musée du Prado, où ma tante Marcelle, alsacienne, la sœur de mon père, qui est la dame magnifique qui est en immense dans ma chambre avec la plume de Pan, m'emmène 2 fois par semaine. Et là, tout de suite, dès l'âge de 7 ans, je préfère Goya à Velázquez. Bien qu'une petite fille, normalement, une petite fille coquette, devrait préférer les ménines, les bijoux, les coiffeurs. Non. Comme je me sentais terriblement triste de la séparation d'avec mes parents et mon jeune frère Eric, j'évoluais mieux dans le malheur. Je me sentais plus à l'aise dans le malheur que dans la beauté et la joie. Donc, tout de suite, je suis fascinée par l'œuvre de Goya et je dis à tante Marcelle, que j'appelais Mima, « Mima, non, je ne veux pas revoir les Ménines de Velázquez. Non, emmène-moi plutôt dans les salles de Goya. » Et c'est là que j'apprends au musée de Prado, sans jamais avoir vu ou touché un appareil photo de ma vie, mais j'apprends évidemment le sens du cadrage. Donc, non seulement de tous les tableaux que je vois, où personne, évidemment aucun peintre ne coupait les pieds, les mains, comme font les mauvais photographes. Les mauvais photographes, ils font ça. Ils coupent les pieds des gens, ils oublient. Mais là, tous les cadrages, évidemment, que je vois de ces tableaux pendant des années, 2 fois par semaine, sont extraordinaires, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est ceux de Goya. Et dans les grands tableaux de guerre, dont le 13 de Mayo, la fusillade et tout ça, les exécutions en dehors de Madrid à l'aube, et même la bataille des Mamelouks, je vois tout de suite, même petite fille, je vois tout de suite que Goya, et ça me plaît beaucoup, qu'il me fait, j'allais dire, des photos, des grands tableaux avec beaucoup d'espace autour. Le sable, on a presque l'impression qu'on est pris dans un tourbillon de sable soi-même, et l'odeur, et tout. Et c'est un peu ce que je fais après, quand mes premières photos après le Tchad, je pars sans Eric, toute seule en Irlande du Nord, et je me souviens très très bien, que quand les enfants de Derry, qui aujourd'hui est une des photos, ils disent les 100 photos du siècle, quand les enfants de Derry me disent « Fuck you, non, tu ne passeras pas, nous sommes les rois de la rue et tout ça. Moi, j'étais déjà tellement rapide, j'avais déjà un œil, après tout ce que j'avais vu, que je me dis, mais attends, je suis trop près d'eux, je vais les couper. Et, tu vois, il ne faut pas les couper. Donc je me dis, il faut que je prenne du recul pour faire comme Goya. Parce qu'avant, j'étais placée comme ça. Donc j'aurais coupé là. Mais dès qu'ils me disent, fuck you, tu passeras pas. Toute cette fumée, ça me rappelle Goya, justement, lui, toujours. Et donc je fais un saut en arrière pour pouvoir les prendre et qu'on voit tout le background. Et ce qui est très Goya aussi chez moi, c'est le noir. Très, très, très intense. Un noir digne de lui, tu vois, que j'adore. Moi, mes photos sont toujours très noires et blanches. Contrairement à, par exemple, l'immense photographe que j'adore, Salgado, mais dont l'on dit qu'il a une lumière argentée digne de Velázquez, le contraire. Voilà.
Et toi, qu'est-ce que tu as senti d'être une femme sur ces zones de guerre ?
Ça me fascinait d'être femme au milieu de la guerre parce que j'avais, chaque fois que j'avais l'appareil photo entre les mains, j'avais l'impression, je l'ai toujours écrit, d'être androgyne. C'est-à-dire d'être homme et femme à la fois. C'est un plus. Parce que pour faire ce métier, il faut l'endurance physique, que j'ai encore, l'endurance physique, la témérité, le courage d'un homme. Mais, tu sais quand on parle du regard féminin, c'est là l'éternelle question. Je dis, ça n'existe pas le regard féminin. Il y a des femmes qui font des photos d'hommes, comme Catherine Leroy. Hier, en passant dans le couloir, j'en ai revu une encore qui m'a fait frémir, que j'aurais jamais pu faire moi-même, ou alors j'aurais fait différemment. Mais il faut une grande froideur pour prendre cette photo. C'est dans l'eau, dans le Mekong, et il y a un soldat avec son revolver, juste, il va tuer un Viet Cong qui est dans l'eau. Bon, ça, pour moi, c'est, si je savais pas que c'est Catherine, on me dirait, vous pensez que c'est un homme ou une femme? J'aurais dit, un homme. Celle-là, hein, j'aurais dit un homme, c'est une photo de guerre. Le petit garçon dans les sables, c'est probablement une femme, la tendresse d'une femme. Donc, être femme dans la guerre, c'était un atout énorme parce que, du moins, enfin, tu m'as interviewé moi, donc je dis ce que je pense, que j'avais cette impression. D'abord, j'assurais, j'ai dit, tiens, Paris Match m'a envoyé, m'a donné un assignment, je vais faire les photos qu'ils attendent de moi, comme ferait un homme, pour qu'on me dise pas, ah, elle photographie des femmes et des enfants. Mais après, dès que j'avais fini, alors après, laissant après parler mon cœur de femme, je me dirigeais, comme faisait Capa, à la recherche des survivants. Et c'est là où je fais toutes ces photos très tendre, dont je suis beaucoup plus fière, même ça, tu vois, beaucoup plus fière que de l'autre photo du mort, c'est pas parce que c'est un mort. Je fais des photos dures comme un homme et je fais des photos tendres grâce au fait que je suis femme et que je peux permettre dans les nurseries où un homme n'aurait pas le droit de rentrer. Beaucoup plus, évidemment, dans l'Afghanistan des talibans, où seul moi pouvait rentrer dans un hôpital de femmes à Herat en cachant l'appareil photo. C'est comme ça que j'ai pu faire toutes ces photos qui auraient été interdites aux hommes. Donc voilà, double avantage. Dès que j'ai entendu à la radio Calais, j'ai mis mes pantalons noirs, mes jeans. J'ai laissé Philippe, j'ai pris la porte, je suis partie. C'était un dimanche matin, il me voit comme ça, et avec des bottes en caoutchouc, un bonnet noir. Et il me dit, mais chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas au puce aujourd'hui, le dimanche? Je dis, non, t'en fais pas. Non, je vais dans la jungle de Calais. Il me dit, tu vas dans la jungle de Calais? Toujours le danger, elle n'aime que le danger, voilà, elle a pas changé. Alors moi, je dis, non, j'ai pas changé, justement. Je claque la porte et je pars. Donc, lorsque je vais à la jungle de Calais, un dimanche de neige, et tout d'un coup, mon œil est attiré de loin par une petite tente noire sur laquelle un très beau migrant afghan qui me regardait les yeux dans les yeux comme dans toutes mes photos, mon regard frontal, et je l'avais repéré de loin parce que sur sa petite tente noire ancrée dans la boue, il avait peint, je vais les regarder, de grandes colombes de la paix. Et il n'y a pas longtemps, un journaliste âgé qui est venu me voir ici dans ce même appartement galerie où vous êtes, tout d'un coup il a vu cette photo qui est ma photo, ma dernière photo la plus emblématique, que j'appelle non pas un dimanche à Calais mais les colombes blanches de Calais. Et tout d'un coup il a vu l'œuvre de ma mère, où ma mère, dans un paysage comme de guerre, comme au Vietnam, tout d'un coup, dans un paysage, on dirait des cratères de la guerre au Vietnam, en bas, à gauche, elle a greffé, elle est là-bas, l'œuvre, une colombe de la paix. Et ce monsieur, tout de suite, il était dans cette pièce, donc, il voit cette photo, il se retourne et me dit, mais Christine, ben je dis oui, sans doute, évidemment c'est très beau, sans doute j'ai été attirée par les colombes blanches de Calais parce que ma mère, toute la vie, a peint des colombes dans nos chambres d'enfants.
À suivre le second épisode, ce qui est enfoui.
C'était le premier épisode de Christine Spengler à l'ombre de la mort. Merci à Christine Spengler. Attachée de production, Sylvia Fabre. Coordination, Christine Bernard. Mixage, Xavier Lévesque. Un documentaire de Judith Pérignon réalisé par Gaëlle Gillon.